Bonjour, aujourd'hui avec Yves Lacoste, qui en est le spécialiste français le plus connu, la géopolitique. Tout État fait la politique de sa géographie. Napoléon. D'histoire. Il y a deux façons de comprendre l'histoire, celle des moralistes et des idéalistes, pour lesquels les affrontements entre les États et les peuples ne sont dictés que par des motivations idéologiques et religieuses, et celle des pragmatiques, qui considèrent, comme Napoléon, que les États ne font que la politique de leur géographie. Mais si, au moment où s'effondrent les grandes idéologies du XXe siècle, cette conception géopolitique de l'histoire permet de mieux la comprendre, elle a aussi servi à justifier le pire, la politique expansionniste de Hitler et de tous les grands conquérants, même ceux qui, bien avant l'invention du mot, faisaient déjà de la géopolitique sans le savoir.
Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteinte ou connue. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses.
Alexandre ! Alexandre ! Alexandre !
Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
Yves Lacoste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste, je le disais, français le plus connu de la géopolitique, à laquelle vous venez de consacrer un livre passionnant, édité chez Larousse, et un livre dans lequel vous rappelez que le mot date du début du XXe siècle seulement, et que la géopolitique, eh bien, c'est l'étude des rapports entre la géographie et la politique des États. Mais est-ce que, en envahissant la Perse, il y a déjà très longtemps, est-ce qu'Alexandre, il y a 25 siècles, est-ce qu'Alexandre ne faisait pas déjà de la géopolitique bien avant que le mot n'existe?
Bien entendu, bien entendu. Et je dirais même plus, c'est qu'il a un guide. Et ce guide, c'est le grand géographe et historien Hérodote, un siècle auparavant, qui a décrit avec une précision extraordinaire, non seulement les montagnes, les routes, les villes de l'Empire perse, mais son organisation politique, sa structure militaire, hein, et, pour ajouter, c'est qu'il a décrit l'Égypte. Pourquoi ? Parce que les Perses viennent de faire la conquête de l'Égypte, hein, et qu'Hérodote se dit, lorsque les Perses nous attaqueront de nouveau, nous, les Grecs, eh bien, ça serait pas mal qu'on fomente des insurrections en Égypte. Et Alexandre va marcher sur les cartes, sur les plans, sur les informations d'Hérodote.
C'est pas pour rien, Yves Lacoste, que la revue que vous avez créée il y a 30 ans, juste, hein, s'appelle Hérodote, oui. Revue de géographie et de géopolitique. Une petite définition quand même de ce qu'est la géopolitique. Dans le Larousse, vous dites que c'est tout ce qui concerne les rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires et des populations qui y vivent. Mais encore.
Précisons, le Larousse, c'est pas le dictionnaire Larousse.
Non, c'est le livre de chez Larousse. C'est le livre de chez Larousse. Alors, donc géopolitique,
j'entends par géopolitique, et c'est la façon la plus globale d'envisager différentes acceptions, tout ce qui relève de rivalité de pouvoir, de toutes sortes de pouvoirs, sur du territoire. Hein, que ce soit entre des États, entre des tribus, entre des groupes plus ou moins occultes, il y a une géopolitique des mafias qui se disputent du territoire. Hein, voilà. Et ces territoires, ils sont envisagés, ils sont convoités en fonction des richesses qu'ils peuvent fournir. Quand il y a eu en 91 la guerre pour le Koweït, on savait très bien quel était l'enjeu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces territoires, telle ou telle force, les revendique, les convoite, en fonction d'une idée qu'elle se fait. Ce territoire, c'est à nous, nos ancêtres, nos prédécesseurs, ils ont posé leur camp, ont donné tel nom, ont créé telle ville, vous voyez. dans la géopolitique, il n'y a pas seulement la valeur intrinsèque du territoire en termes économiques ou stratégiques, mais c'est la représentation, la façon dont tel ou tel protagoniste se représente les choses.
Alors si je vous comprends bien, Yves Lacoste, elle sert cette géopolitique à comprendre l'histoire, mais elle peut aussi, vous le rappelez, l'influencer, et parfois pour le pire, comme ce fut le cas au XXe siècle, de la politique d'expansion menée par Hitler, et qui était dictée, disait-on, par des géopoliticiens allemands qui ont servi à justifier la conquête par le Troisième Reich d'un espace vital qu'Hitler était allé chercher à l'Est en envahissant la Russie le 22 juin 1941, Joseph Goebbels.
Peuple allemand, en cet instant s'accomplit une marche en avant, la plus grande que le monde ait jamais vue.
À l'aube du 22 juin 1941, à la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, donne lecture de la proclamation du Führer par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. Bientôt, malgré la résistance des 160 divisions de l'armée rouge, les frontières sont passées sur tous les points. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée.
Et c'était les actualités que les Français pouvaient voir et entendre dans les salles de cinéma pendant la guerre et l'occupation, justifiant, on vient de l'entendre, mais c'était l'époque de Vichy, tout ce qu'on appelait la lutte pour la défense de l'Occident, entendez par là tout simplement l'invasion de la Russie. Alors pendant une guerre qui a discrédité totalement, Yves Lacoste, la notion de géopolitique qui aurait été inspirée Hitler dans un pays où elle a été inventée. La géopolitique, vous le dites au sens moderne du mot en tout cas, eh bien elle vient d'Allemagne et du début du 19e siècle.
Oui, pour compléter ce que vous dites, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans l'Allemagne du 19e siècle. Elle est encore très divisée en principautés, en duchés, etc. Bon. Et les Prussiens, je dis bien les Prussiens, les gens de l'université de Berlin, qui a été créée en 1810, vont faire en quelque sorte une invention dont les conséquences vont être considérables, positives d'abord, puis ensuite on verra négatives, c'est que cette géographie qui existait depuis 24 siècles, aujourd'hui la géographie au sens d'Hérodote, 25 siècles, donc dans 2000 ans d'histoire, on est largement.
On a dépassé.
Et jusque-là, c'était un moyen d'action pour ceux qui dirigeaient des armées, des États, etc. La géographie, c'est un outil de conquête. C'est pour ça qu'en...
Pour les élites.
Pour les élites. C'est pour ça qu'en 1976, j'ai scandalisé mes confrères géographes et universitaires en intitulant un petit livre qui a pour titre « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ».
Mais là, dans votre livre, vous rappelez que justement, non seulement elle devient, si je puis dire, importante, mais elle est même, je crois que ce sont les Allemands qui sont les premiers à enseigner l'histoire et la géographie
voilà,
à l'école,
voilà,
les Prussiens.
C'est que les Prussiens font cette invention de la géographie scolaire et universitaire. Pourquoi diable ? Eh bien parce que ils se disent qu'il faut que les futurs citoyens de la Prusse, mais de la Bavière, mais tout ce qu'on veut, se disent que l'Allemagne, ça existe. Ça existe en tant qu'entité géographique. Certes, elle est divisée, etc. Mais, si vous voulez, ils posent, donner de l'enseignement associé à l'histoire, l'enseignement de la géographie, on va faire l'unité allemande. Et vous voyez, ce projet de la géographie scolaire, il est déjà géopolitique.
Et plus tard,
mais le mot n'existe pas encore.
Et plus tard, ça va servir aussi à justifier son expansion coloniale. Autrement dit, elle sert à quelque chose. Il y a un personnage très important que vous citez, Yves Lacoste, qui est Friedrich Ratzel, qui invente le concept d'espace vital, le Lebensraum. C'est lui qui l'a inventé. Il sera repris plus tard par Hitler, qui préside la Ligue pan-germaniste aussi. Donc c'est un homme très important, Ratzel, dans l'histoire de la géopolitique.
Avant Ratzel, il y a celui qui l'inspire et dont le nom est très connu, mais dans un tout autre domaine, c'est Charles Darwin. Et Charles Darwin, en 1859, va publier ce livre extraordinaire, qui va scandaliser les religieux, mais qui va susciter un enthousiasme chez les matérialistes, c'est la lutte pour la vie, la sélection des espèces, hein, l'origine des espèces. Et Darwin dit, les espèces luttent entre elles, c'est pour ça que la plus équipée, la plus efficace, l'emporte. Et je reviens sur cette idée de l'espace vital. Cette idée de l'espace vital, on le prend comme champ d'expansion. Mais il a une signification bien plus terrible, dont je me suis rendu compte relativement récemment. C'est que c'est un concept écologique. C'est un concept écologique.
Ah bon ?
Oui, mais au très mauvais sens du terme, vous allez voir. C'est que Ratzel est un élève, qui est un disciple de Darwin, de Haeckel, le fondateur de l'écologie. Et il se raconte qu'une espèce, une espèce végétale ou une espèce animale, a absolument besoin de liquider une espèce rivale.
Vous pouvez dire au fond qu'on transpose cette théorie de Darwin à la géopolitique des peuples, au
oui,
fond.
Mais Darwin n'a jamais dit ça.
Alors,
Darwin raisonnait en termes d'espèces zoologiques, bon, mais Ratzel, quand il emploie le terme d'espace vital, c'est pas le champ d'expansion d'un État, comme on l'entendait, bon, mais c'est l'espace où il faut liquider telle espèce. Et ce qu'il y a de monstrueux dans la géopolitique, je permets d'insister là-dessus, c'est que ça signifie qu'il faut liquider une espèce qui, sans laquelle on ne peut pas se développer, c'est-à-dire, il ne le dit pas, mais Hitler lui dira, il faut liquider les Juifs.
Alors Hitler, inspiré par un autre homme plus tard, après la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Karl Haushofer, hein, qui a inspiré Hitler, en fait il n'a pas été tellement favorable à ses idées. Haushofer qui va inspirer Hitler parce qu'il connaissait son bras droit, Rudolf Hess, c'est comme ça qu'il a été présenté à Hitler, mais en fait il était contre Hitler quand celui-ci a envahi la Russie, et par exemple il sera arrêté par la Gestapo, il va même se suicider en 1946,
Haushofer. Oui, et le fils d'Haushofer, qui était lui-même spécialiste de géopolitique, sera assassiné par la Gestapo, parce que les Haushofer, qui jouent un rôle important, sont contre cette invasion de l'Union soviétique.
Alors en tout cas, cette géopolitique va être tout à fait discréditée, car on considère qu'elle a inspiré Adolf Hitler, et on n'en parle plus au moment où commence la guerre froide en 1946, avec ce que Churchill appelait le rideau de fer, une division du monde en deux blocs qui, selon lui, n'est pas due à un affrontement entre deux ambitions territoriales contradictoires, mais entre deux idéologies incompatibles qui vont diviser l'Europe et le monde pendant près de 50 ans. Winston Churchill à Fulton, aux États-Unis, le 5 mars 1946.
Tried by separate action to build up a pro-communist Germany in their areas.
Si le gouvernement soviétique tente d'instaurer unilatéralement une Allemagne pro-communiste dans sa zone, nous aurons des difficultés dans les zones anglo-américaines. Et les Allemands en profiteront pour miser sur l'URSS contre les démocraties occidentales.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic.
De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent, séparant de nous toutes les capitales d'Europe centrale et orientale.
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia. All these famous cities.
Ces vieilles villes et leurs habitants sont désormais sous la chape soviétique.
I must call the Soviet sphere.
Et le discours de Churchill que l'on vient d'entendre est très célèbre. Il l'a prononcé à Fulton en mars 1946. Pour la première fois, on entendait le mot de rideau de fer. Il évoquait une division du monde en deux blocs. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus d'expliquer cette division, cet appétit de conquête des deux superpuissances qui émergent de la guerre par des appétits territoriaux. Il est beaucoup plus question d'affrontement idéologique. La géopolitique, si je puis dire, est morte. Elle renaîtra, mais on n'en parle plus.
Cette version-là de la géopolitique. Hein, parce que j'ai concouru tout à l'heure à montrer en quoi la géopolitique hitlérienne avait été monstrueuse, mais c'est une des formes de la géopolitique. Hein. Et c'est pendant longtemps, après la Seconde Guerre mondiale, on a cru que c'était la seule façon dont on pouvait parler en termes de géopolitique, et on peut contradictoirement dire que les raisonnements d'Hitler ne tenaient pas debout, qu'ils ont conduit l'Allemagne à la catastrophe, C'est ce que disait Haussoffer, d'ailleurs. Et c'est aussi de la géopolitique.
Oui, mais ce que je veux dire, on n'explique plus le monde par un appétit de conquête, même si, en réalité, c'était de ça qu'il s'agissait. L'URSS et les États-Unis voulaient étendre leur zone d'influence, mais on invoque plutôt des raisons ou des prétextes idéologiques, et on ne parle plus de géopolitique. Le mot est vraiment tabou. Hein. Il est interdit à ce moment-là, pendant les années, à la fin des années
40. Jusqu'en 79.
Oui, oui.
Jusqu'en 79, et la date de 79, de 1979, est très intéressante.
Mais on y reviendra. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tabou partout. On assiste, par exemple, à la diminution des heures de géographie et d'histoire dans tous les pays anglo-saxons. En France, malgré tout, la géographie et l'histoire continuent d'être enseignées de manière importante.
Et c'est le seul État européen où l'histoire et la géographie continuent d'avoir une telle part dans l'enseignement secondaire. Alors que l'histoire et la géographie ont été complètement liquidées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand on parle de géopolitique à des Allemands, ils sont horrifiés.
Alors, on voit apparaître aussi une nouvelle école de géographes dont vous faisiez partie et qui est à l'origine, justement, d'une école française de géopolitique très différente, hein, vous le disiez, de l'école allemande de l'entre-deux-guerres. Par exemple, vous n'encouragez pas, évidemment, l'expansion territoriale. Vous dites même que c'est un peu contre la colonisation, qui est la grande affaire de l'époque dans le monde, et notamment en France, avec les guerres d'Indochine et d'Algérie, que se dresse cette école de géographie dont vous étiez un peu le chef, Yves Lacoste, si je puis employer ce mot.
Parce que la colonisation, qui était un phénomène planétaire, ça a été ce qu'on appellerait aujourd'hui un formidable phénomène géopolitique, hein, des rivalités de pouvoir sur du territoire. Mais le mouvement d'indépendance des peuples contre des pouvoirs étrangers, c'est aussi un grand mouvement de géopolitique. Et par conséquent, à partir notamment de 1954, le début de la guerre d'Algérie, je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes de lutte pour l'indépendance. D'abord parce que je suis né au Maroc et que ces phénomènes coloniaux, je me suis efforcé de les comprendre, y compris dans leurs phénomènes contradictoires, et de comprendre ceux qui luttaient contre la colonisation.
Et vous créez donc en 76, elle a exactement 30 ans en ce moment, la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Hein, le mot sera encore très peu employé.
Oui, tout à fait. Et il a fait scandale. Hein, et on s'est demandé, cette revue a été publiée chez François Maspero, qui n'était pas suspect de retour vers des thèses impérialistes. Et François Maspero a été immédiatement d'accord pour publier cette revue, et sans lui, elle n'aurait pas pu exister.
Alors, il est vrai qu'on est en pleine guerre froide, on continue d'expliquer l'affrontement des blocs par des motivations idéologiques, jusqu'à ce qu'un jour, on comprenne qu'elle n'explique pas tout, lorsqu'en 1979, vous le dites, on assiste à un affrontement militaire entre trois pays communistes, l'invasion par la Chine, du Vietnam, allié de l'URSS, France Inter, Pierre Chatignou, le 19 février 1979.
48 heures après le début de l'opération coup de poing lancée contre le Vietnam, on se bat toujours à la frontière. En tout, 50 000 hommes sont déployés devant Hanoï, où la radio appelle le peuple à s'unir face à l'envahisseur. Écoutez.
Répondons résolument et faisons échouer les manœuvres d'agression des réactionnaires chinois. Les agresseurs chinois hors du Vietnam.
À bas
les expansionnistes de
Grand Han. Après Hanoï et Moscou, les explications maintenant de Radio Pékin, captées également par notre station d'écoute de Limour il y a quelques minutes.
Nous ne prétendons à aucun pouce de territoire vietnamien, mais nous ne permettons absolument pas qu'on envahisse le territoire de notre pays. C'est précisément pour défendre la paix et la tranquillité dans nos régions frontières que nous sommes obligés à riposter en légitime défense aux agresseurs vietnamiens. Après la riposte, nos troupes de la défense frontière s'en tiendront strictement à la défense de la frontière de notre patrie.
Alors ça, c'est un conflit qu'on a un peu oublié aujourd'hui. En 1979, une guerre qui a été très brève, qui n'a pas été très très violente, mais entre deux pays communistes, la Chine et le Vietnam. Alors là, c'est et au nom de la patrie, on a entendu ça. On imagine l'internationaliste Karl Marx qui devait se retourner dans sa tombe.
Oh ben, vous savez, il s'est retourné un certain nombre de fois.
Oui.
Bon, non, attendez. Avant la guerre, l'attaque chinoise sur le Vietnam, il y a quelque chose qui a beaucoup plus ému et même scandalisé le monde occidental.
L'invasion du Cambodge par le Vietnam.
L'invasion du Cambodge par le Vietnam, alors que c'était deux forces communistes qui avaient été alliées contre les Américains pendant des années, qui sortaient d'une guerre terrible, et finalement, les Vietnamiens, communistes, envahissent le Cambodge.
Alors là, on ne peut plus expliquer les conflits par des conflits idéologiques, bien sûr. La géopolitique redevient, si je puis dire,
et l'enjeu, c'est le tracé de la frontière dans le grand delta du Mékong. Et vous avez le journal Le Monde, hein, qui, dans son éditorial, déplorant cette guerre fratricide entre deux peuples martyrs, comme on disait, conclut l'éditorial, hein, en disant, il dit poids, il ne dit pas poids, c'est de la géopolitique, il dit c'est de la géopolitique. Pourquoi ? Parce que ramener des conflits à des enjeux territoriaux, ça paraît dérisoire.
Alors là, le mot devient à la mode. Hein. Il est emprunté, et même il va être pratiqué, si je puis dire, avec des spécialistes, des consultants, des journalistes. Je pense aujourd'hui à Bernard Guetta et sa chronique géopolitique
tous les matins
sur Inter. Et dans un monde qui reste multipolaire, malgré tout, malgré la domination depuis la chute du mur de Berlin, malgré la domination écrasante des États-Unis, et où apparaissent de nouvelles formes d'affrontements.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'île de
Bhopal. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Who attacked our country?
Qui a attaqué notre pays? Les preuves que nous avons réunies nous mènent à un ensemble d'organisations terroristes plus ou moins liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda. Il y a des milliers de ces terroristes dans plus de 60 pays. Ils sont recrutés dans leur propre pays, dans leur quartier, et amenés vers des camps dans des pays comme l'Afghanistan, où ils sont entraînés au terrorisme.
Et c'était George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 qui ont bouleversé les relations internationales. Est-ce que la géopolitique peut aujourd'hui expliquer un affrontement qui semble présenter un peu comme un affrontement idéologique, voire religieux, et non plus tellement territorial?
Vous savez, tous les affrontements pour du territoire ont été aussi idéologiques. Hein. On a fait les croisades au nom du Christ, et c'était aussi pour du territoire, pour prendre le contrôle du Proche-Orient, où arrivaient les routes caravanières en provenance de l'Inde. Bon, par conséquent, ça ne s'exclut pas. Ce qui est très intéressant dans le cas du 11 septembre, hein, c'est qu'on a là, si vous voulez, le contre-coup de lutte interne au Proche-Orient. Hein. Ben Laden a été très associé aux Saoudiens, mais aux Américains, pendant l'invasion soviétique de l'Afghanistan, et Ben Laden a refusé d'admettre que les Saoudiens, en 1990, au moment de l'invasion d'Irak, par l'Irak du Koweït, acceptent la présence de troupes américaines en Arabie. L'Arabie étant, selon les musulmans, un territoire sacré sur lequel aucun non-musulman ne peut mettre le pied. Il y a eu un conflit, bon, qui serait trop long d'évoquer ici. Et vous avez ce phénomène extrêmement intéressant de la géopolitique, c'est que des rivalités de pouvoir, on pourrait dire, bon, on s'en moque des rivalités de Ben Laden et du roi d'Arabie Saoudite, mais des rivalités de pouvoir, qui peuvent être tout à fait locales, vont entraîner des contre-coups, parfois plus ou moins proches, et parfois des milliers de kilomètres. Hein. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est les phénomènes de projection de puissance, ou de contre-coups à grande distance. C'est-à-dire que des rivalités de pouvoir sur du territoire peuvent avoir des effets absolument inattendus, imprévus, à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi nos concitoyens, nos compatriotes, doivent tenir compte, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font, ils s'intéressent de plus en plus à la géopolitique, en s'occupant de ce qui peut se passer apparemment loin de chez nous, les histoires d'Irak, mais elles ne sont pas les seules, et les conséquences que ça peut avoir par contre-coup. Vous voyez, les problèmes géographiques ne se limitent pas au terrain d'affrontement, mais avec des phénomènes de contre-coup à grande distance.
C'est ce que vous montrez à l'aide de cartes, d'ailleurs, dans votre livre, Yves Lacoste, Géopolitique. On comprend effectivement beaucoup mieux. C'est curieux, on a l'impression qu'on a... Pourquoi a-t-on attendu tant de siècles pour savoir quelle était l'importance de la géopolitique?
Parce qu'il fallait que des géographes universitaires ayant le métier de raisonner et d'argumenter, hein, s'intéressent à ce genre de problème. C'est ce que j'ai fait.
Merci, et c'est ce que vous faites aussi donc dans ce livre passionnant, Yves Lacoste. Moi, je l'ai parcouru entier. Nous sommes surtout servis de l'introduction qui servait à rappeler ce que nous avons fait aujourd'hui, l'histoire de la géopolitique. Mais il y a plusieurs chapitres consacrés à tous les grands conflits contemporains et que vous expliquez à l'aide de cartes et de commentaires qui sont passionnants dans ce livre Géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, qui vient d'être publié chez Larousse. Vous êtes également l'auteur de plusieurs dictionnaires, dictionnaire de géopolitique publié chez Flammarion, et plus récemment de la géographie au paysage, de la géopolitique au paysage, dictionnaire de la géographie publié chez Armand Collin. Enfin, je rappelle aussi, bon anniversaire Yves Lacoste, que votre revue Hérodote a publié son dernier numéro pour le 30e anniversaire justement de sa naissance, et qui est consacré à la question coloniale.
Post-coloniale.
Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Rossen, disponible en DVD chez MGM, ainsi qu'une archive de 1941, issue des archives de guerre 1940-1945, commentée par Marc Ferraud et éditée en DVD aux éditions Nouveau Monde. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Romain Luquiens, documentation et archives sonores Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et Amélie Brillant le Jeune, une réalisation de Anne Comilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi avec Hélène Carrère-Dancos, la déstalinisation, c'était il y a 50 ans. Mardi avec Malek Chebel, le sexe et l'islam. Mercredi, Max Gallo viendra nous parler de Néron. Et enfin, jeudi et vendredi, 70 ans après sa victoire aux élections de mai 36, le Front populaire. Il est 14h30 sur Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.